Il est 5h30 en temps universel, au micro Nanit Talani pour vous présenter cette édition du Monde aujourd'hui du jeudi 20 juin 2024. Voici les titres. RDC reprise des affrontements entre le gouvernement et les rebelles du M23 à Kanyabayonga. Guinée, arrestation de deux officiels de la haute autorité de la communication après des accusations de corruption. Fermeture partielle de la frontière entre le Sénégal et la Guinée suite aux affrontements communautaires. Arabie Saoudite, une canicule meurtrière endeuille le pèlerinage du Hadj. Dans la Minute Éco, les récents résultats financiers du port autonome de Douala. Au programme de la page des sports, les derniers résultats de l'Euro 2024 et le choc Italie-Espagne ce jeudi. Dans nos dossiers du jour, les inondations en Côte d'Ivoire et les célébrations de la Juneteenth aux États-Unis. En attendant, voici le journal. En République démocratique du Congo, des affrontements ont repris hier dans la région du Kanyabayonga, dans l'Est, entre forces gouvernementales et rebelles du M23, faisant des morts et des blessés. Les précisions avec Mouamadou Oumfa.
Aux premières heures mercredi, des combats entre la rébellion du M23 et les forces gouvernementales de la RDC, appuyées notamment par des groupes armés dits patriotes, se sont à nouveau rapprochés de Kanyabayonga, dans la province du Nord Kivu. Selon des sources jointes par l'agence France-Presse, entre 5 à 7 personnes ont été tuées et 4 autres blessées par des obus tirés par les rebelles du M23 dans le village de Boulotoir, à 5 km de Kanyabayonga. Le bourgmestre adjoint de Kanyabayonga, Baraka Lukuliroa, a lui donné un bilan de 5 morts, 4 blessés et une école détruite. Une relative accalmie y régnait depuis 2 semaines. En début de semaine, l'armée congolaise avait fait état de la pression exercée selon elle sur les rebelles. Début juin, le comité international de la Croix-Rouge a dû suspendre son assistance en vivres à des milliers de déplacés dans cette région à cause des combats.
L'incendie qui a embrasé le principal dépôt de munitions de l'armée tchadienne et provoqué des explosions en chaîne dans la nuit de mardi à mercredi à N'Djamena a fait au moins 9 morts et 46 blessés selon le gouvernement. Ce premier bilan chiffré risque de ne pas être définitif car des blessés sont dans un état gravissime, a précisé le ministre de la Santé publique Abdelmadjid Abderrahim devant la presse à la mi-journée. Il n'a pas donné de détails du nombre de victimes civiles et militaires. Ce n'est pas la première fois qu'il y a des explosions de magasins de munitions. Cela doit nous donner des leçons pour que dorénavant, on ne puisse plus construire de magasins en pleine ville, a réagi le président tchadien Mahamat Idriss Déby Itno lors d'une visite sur le site de l'explosion. Il assure qu'une enquête est ouverte pour déterminer les causes. En Guinée, deux officiels ont été écroués après avoir déclaré que les patrons de médias très suivis ont été achetés par les militaires au pouvoir pour se montrer conciliants avec eux. C'est ce qu'a indiqué un de leurs collègues. Les précisions de Yakuba Ouedraogo.
Janet Diaby et Tawel Camara, deux des 13 commissaires de la Haute Autorité de la Communication, ont passé la nuit à la prison centrale de Conakry après avoir été inculpés pour diffamation contre le chef de l'État. Ils ont été placés sous mandat de dépôt selon un autre commissaire, Amadou Touré. Janet Diaby et Tawel Camara ont fait scandale en expliquant le 12 juin, lors d'une rencontre publique, comment 4 radios et 2 télévisions privées à forte audience s'étaient retrouvées interdites fin mai. Ils ont reproché au patron d'avoir ignoré les avertissements de la HAC et de n'avoir pas mis en sourdine les critiques à l'encontre du pouvoir alors qu'ils avaient, selon eux, touché de l'argent de la présidence du général Mamadi Doumbouya. La HAC a suspendu les 2 commissaires pour faute lourde le 13 juin et les directeurs des groupes Adafo Média, Joma Média et Fréquence Média ont annoncé porter plainte contre eux. Leurs médias font partie des 6 radios et télévisions auxquelles les autorités ont retiré leur agrément le 22 mai, invoquant un non-respect du contenu des cahiers des charges et des dérapages réguliers.
Le président bissau-guinéen Oumaro Sissoko Embalo a ordonné hier la fermeture d'une partie de la frontière avec le Sénégal après des affrontements entre 2 communautés musulmanes dans ce pays voisin. Le point avec Blanche Sanou.
Le président Embalo a indiqué qu'à la suite des heurts de lundi, l'une des communautés avait appelé en renfort des Peuls Kabunke vivant en Guinée-Bissau. J'ai aussitôt pris la décision de fermer cette partie de la frontière pour empêcher toute escalade de violence, a-t-il dit. Les forces de sécurité de mon pays veillent au respect scrupuleux de cette mesure, a-t-il assuré. La ville sainte de Medina Gounas, dans la région de Kolda, dans le sud du Sénégal, a été lundi, jour de l'Aïd, le théâtre d'affrontements entre les fidèles du calife de la localité, Tierno Amadou Tidianba, appelé les Funtanke, et ceux du marabout Tierno Muniru Balde, dénommé les Kabunke. Les heurts ont fait un mort et une vingtaine de blessés selon le ministère de l'Intérieur. Même si de telles confrontations communautaires sont extrêmement rares au Sénégal, les deux communautés s'opposent cependant de longue date pour le contrôle de la grande mosquée de la localité. Elles s'accusent mutuellement d'être à l'origine des tensions qui ont fait plusieurs morts par le passé. Medina Gounas, au sud du Sénégal, se trouve à quelques dizaines de kilomètres de la Guinée-Bissau.
L'ONG Reporters sans frontières dit craindre l'utilisation abusive au Niger d'une loi réprimant la diffusion numérique de données de nature à troubler l'ordre public qui pourrait faire emprisonner et censurer des journalistes dans un communiqué rendu public hier mercredi. Adoptée en 2019, cette loi a été durcie il y a une semaine par une ordonnance du général Abdourahmane Tchiani au pouvoir depuis un coup d'État en juillet 2023. Elle réprimait déjà la diffusion numérique de données de nature à troubler l'ordre public, la diffamation et les injures commises par voie électronique, mais le général Tchiani a rétabli des peines de prison supprimées par le pouvoir civil en 2023 qui les avait remplacées par des amendes.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
L'armée américaine a annoncé hier soir avoir frappé au Yémen deux sites houthis, dont un centre de commandement, après une série d'attaques ces derniers jours de ces rebelles yéménites contre des navires circulant en mer Rouge et dans le golfe d'Aden. Outre un centre de commandement, l'armée américaine a détruit une station de contrôle située elle aussi dans des zones contrôlées par les Houthis au Yémen, ainsi que deux embarcations sans pilote des Houthis en mer Rouge, a indiqué sur X le commandement central de l'armée américaine pour le Moyen-Orient. Les ravages de la canicule en Arabie Saoudite, des proches de pèlerins portés disparus pendant le Hadj ont fouillé les hôpitaux hier, redoutant le pire, après la mort de plus de 900 fidèles lors de ce grand pèlerinage musulman annuel. Les détails avec Chimel Gondonou.
La majorité des pèlerins tués lors du Hajj qui s'est déroulé la semaine dernière à la Mecque sont de nationalité égyptienne. Selon un diplomate arabe, le bilan des morts égyptiens au Hajj est monté à au moins 600. Tous les décès sont dus à la chaleur, a-t-il dit à l'AFP, alors que les températures avaient atteint les 51,8 degrés Celsius. Précédemment, d'autres diplomates ont fait état de moins 323 Égyptiens décédés pendant le Hajj auquel ont participé environ 1,8 million de personnes cette année, la plupart venues de l'étranger. Les responsables égyptiens en Arabie Saoudite ont été informés jusqu'à présent de 1 400 cas de pèlerins portés disparus. Ce chiffre englobant les 600 pèlerins morts, a ajouté le diplomate arabe. Le nouveau bilan égyptien porte à 922 le nombre total de morts comptabilisés jusqu'à présent au Hajj selon un décompte de l'AFP réalisé à partir des données fournies par différents pays. Selon une étude saoudienne publiée en mai, ce pèlerinage subit de plus en plus les effets du changement climatique.
La Corée du Nord et la Russie qui luttent ensemble contre l'hégémonie américaine ont signé hier un accord de défense mutuelle, a annoncé Vladimir Poutine, qui a remercié son hôte à Pyongyang, Kim Jong-un, pour son soutien dans la guerre contre l'Ukraine. Le traité prévoit entre autres une assistance mutuelle en cas d'agression contre une partie au traité, a déclaré M. Poutine. Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a de son côté assuré que l'accord était exclusivement pacifique et défensif. Il a rappelé le soutien et la solidarité de son pays à l'armée et aux Russes dans l'opération militaire en Ukraine. Ici aux États-Unis, la Louisiane a imposé hier l'affichage des 10 commandements dans toutes les salles de classe de cet État conservateur du Sud. Une première qui relance le débat sur la séparation de l'Église et de l'État. La proposition de loi prévoit cet affichage dans toutes les écoles publiques, de la maternelle jusqu'aux universités, financées par l'État, et ce, à partir de l'année prochaine. La grande organisation américaine de défense des libertés, ACLU, a aussitôt indiqué qu'elle porterait l'affaire devant la justice. Selon elle, la loi viole la séparation de l'Église et de l'État et est clairement anticonstitutionnelle. 10 militaires péruviens à la retraite ont été condamnés hier à des peines de 6 à 12 ans de prison pour crimes contre l'humanité. Ils ont été reconnus coupables du viol systématique de 9 femmes, parfois mineures, entre 84 et 85, lors du conflit armé interne contre la guérilla maoïste du chantier lumineux. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. Après ce tour d'horizon de l'actualité, place à la Minute Éco, signée Mouamadou Oumfa.
L'agence de notation Moody's a abaissé la note du Gabon à CAA2. Désormais, Libreville ne se situe que 2 crans seulement au-dessus du défaut de paiement. D'après Moody's, l'augmentation des besoins de financement du gouvernement entraîne des pressions sur les liquidités et des risques pour les créanciers du secteur privé. Le bénéfice généré par le port autonome de Douala au Cameroun a reculé de 11% en 2023 pour se situer à 14,4 milliards de francs CFA selon les chiffres communiqués par l'entreprise portuaire. D'après investirocameroun.com, ce recul est à mettre en lien avec les tensions géopolitiques dans le monde, notamment la guerre israélo-palestinienne et ses répercussions sur le golfe d'Aden qui ont donné un coup de froid sur le commerce international. La Côte d'Ivoire veut porter le plateau de sa production de pétrole à 200 000 barils par jour à l'horizon 2027, soit plus de 3 fois les 60 000 barils par jour actuellement produits. C'est Alassane Ouattara, le chef de l'État, qui a annoncé l'information dans une allocution mardi 18 juin. Le dirigeant a indiqué qu'un investissement de 15 milliards de dollars sera mis en œuvre dans le secteur pour réaliser ce bond spectaculaire grâce à l'exploitation des 1,5 milliard de barils de brut dans le champ Calao découvert en mars dernier.
À présent, notre segment sport présenté par Yacouba Ouedraogo. Bonjour Yacouba.
Bonjour Nanit, bonjour à tous.
L'Allemagne qualifiée pour son Euro 2024.
Oui, les Allemands ont surfé sur la dynamique du succès inaugural contre l'Écosse 5-1 en dominant la Hongrie 2-0. Dans une rencontre maîtrisée par les joueurs de Julian Nagelsmann, la première étincelle est venue de Jamal Musiala, auteur de son deuxième but de l'Euro. La Mannschaft s'est mise à l'abri à la 67e minute grâce à Ilkay Gundogan avec 6 points. L'Allemagne est assurée de terminer au pire parmi les 4 meilleurs troisièmes, ce qui valide son ticket pour les huitièmes. Par contre, dos au mur après sa défaite inaugurale 3-0 face à l'Espagne, la Croatie de Luka Modric a été accrochée in extremis par l'Albanie 2-2 à Hambourg. Déjà relevé sur le papier, le groupe B reste indécis après ce match nul en attendant le choc entre l'Italie et l'Espagne ce jeudi.
Justement, Yacouba, Italie-Espagne, c'est le choc du groupe B.
Effectivement, c'est déjà un air de finale entre l'Italie et l'Espagne. Même si elle est championne d'Europe en titre, l'Italie se cherche encore avec un nouveau sélectionneur, Luciano Spalletti, arrivé en septembre dernier, et un effectif rajeuni en quête d'un buteur patenté. La Nationale s'est sortie sans mal du piège albanais 2-1 pour son entrée en matière. De son côté, la Roura a fait forte impression lors de son premier match en surclassant la Croatie 3-0. Pour ce qui est des statistiques historiques, au bilan de leurs 40 précédentes confrontations, l'Italie et l'Espagne sont quasiment dos à dos avec 13 victoires pour la Roura, 11 pour la Nationale et 16 nuls. Dans le groupe C, avec une qualification en huitième de finale possible en cas de victoire contre le Danemark, le sélectionneur Gareth Southgate a admis que l'Angleterre devra être meilleure que contre la Serbie, battue 1-0. À suivre aussi Slovaquie, Ukraine, les Ukrainiens cherchant à se relancer après leur faux pas d'entrée.
Pas de 200 mètres pour Thompson Hera au JO de Paris.
La Jamaïcaine, double médaillée d'or olympique sur 100 et 200 mètres, ne va pas participer aux Jeux de Paris sur le demi-tour de piste. Selon sa Fédération nationale d'athlétisme, l'athlète de 31 ans victorieux sur les deux distances aux JO de Rio en 2016 et de Tokyo en 2021 ne s'est inscrite que sur 100 mètres pour les sélections olympiques qui auront lieu du 27 au 30 juin à Kingston. Lors de sa dernière course au début du mois à New York, Hélène Thompson-Hera avait terminé dernière du 100 mètres en 11 secondes 48, loin de ses performances et de la gagnante, la Nigériane Favour Olifi. Sa compatriote Shelly Ann Fraser-Pryce, médaillée d'or sur 100 mètres à Pékin en 2008 et Londres en 2012, est quant à elle inscrite pour les deux courses.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. De retour dans ce studio, Nanit Talani pour plonger dans notre segment magazine. La Côte d'Ivoire a de nouveau été endeuillée par des inondations provoquées par des pluies diluviennes la semaine dernière. 8 personnes au total ont trouvé la mort à la suite de fortes pluies qui se sont abattues sur le pays et qui ont créé aussi des dégâts matériels. Malgré les efforts des autorités ivoiriennes, le phénomène persiste depuis quelques années, suivant le reportage de notre correspondant à Abidjan, Ange Nemenyo.
La vie a repris dans ce quartier populaire de Yopougon. Mais quelques jours avant, un drame s'y est produit. Un homme d'une quarantaine d'années a succombé à un glissement de terrain alors qu'il se trouvait seul dans sa maison. Il laisse derrière lui une femme et 4 enfants. Cet énième drame interpelle au plus haut niveau les acteurs de la construction. Joseph Hamon, président de l'Ordre des architectes de Côte d'Ivoire.
Nous avons à faire un gros travail, celui de l'éducation de la population. Parce que si on arrive à des situations de désastre, il y a une part qui incombe à notre mode de vie, à notre mode de gestion de notre environnement. Parce que si on a un format de discipline dans la gestion de nos cités, on peut avoir une meilleure maîtrise de ce phénomène d'inondation.
La responsabilité de la population est donc engagée, mais celle des pouvoirs publics aussi. En effet, de nombreuses constructions à Abidjan n'ont pas été faites en suivant un schéma directeur sur les notions d'urbanisme. Les constructions se sont faites donc de manière anarchique, ce qui n'était pas le cas dans les années 80. Mamadou Traoré, urbaniste.
Tout allait bien, on avait moins de problèmes d'assainissement. Et c'est à cette époque que l'État a fait étudier un plan directeur de l'assainissement de la ville d'Abidjan. L'urbanisation galopante a dépassé les limites du plan directeur d'urbanisme. Et cet abus-là, c'est ce que nous payons aujourd'hui. Le réseau d'assainissement n'était pas prévu d'arriver là où la ville est arrivée. De deux, tout ce qui était élément naturel qui pouvait retenir l'eau, ben, on l'a détruit.
Une autre raison qui explique ces inondations, c'est la position géographique de la ville d'Abidjan. La capitale économique ivoirienne se trouve être dans un creux comparé aux autres villes ivoiriennes. Il est donc difficile d'évacuer l'eau de pluie sans qu'il n'y ait d'inondation. Colonel Karamako Viadawe, ex-sapeur-pompier et expert en inondation.
Et que les gens ne savent pas, mais Abidjan est dans une région basse. Quand on dit région basse, ça dit que quand l'eau va quitter ailleurs, en haut d'Abidjan, tout va descendre sur Abidjan. Non seulement on est dans une région basse et une région plate. Il faut aussi savoir que la ville est construite sur des plaines et des zones humides naturelles qui peuvent être facilement inondées en cas d'augmentation rapide du volume d'eau.
Les autorités ivoiriennes ont donc décidé de détruire les maisons situées sur les zones à risque, ce qui a créé un sentiment de frustration au sein de la population. Malgré cette initiative de l'État, la ville a subi des inondations lors des dernières pluies. Et les raisons sont plutôt simples selon les experts. Joseph Hamon, président de l'Ordre des architectes de Côte d'Ivoire.
Mais démolir ne doit pas s'arrêter. Qu'est-ce qu'on fait après la démolition? Qu'est-ce qu'on fait de tous ces espaces qui ont été mis à nu? Si on ne fait rien, on risque d'avoir d'autres phénomènes qui vont apparaître. La nature a horreur du vide.
Les pluies torrentielles suivies d'inondations dévastatrices sont récurrentes dans la plus grande ville ivoirienne, où vivent près de 6 millions d'habitants. L'an dernier, au moins 30 personnes sont mortes dans des incidents liés aux fortes pluies. Ange Bijounoménian pour VOA Afrique, Abidjan.
Abidjan, Côte d'Ivoire, 99 FM, VOA Afrique, 24h sur 24.
Les organisations humanitaires affirment que les crises au Soudan, au Somali, au Sahel et dans d'autres régions reçoivent des fonds très en deçà des besoins. Au début du mois, le directeur du Conseil norvégien pour les réfugiés a déclaré que la négligence totale des personnes déplacées est devenue la nouvelle normalité. Le point avec Henry Wilkins, le récit est de Dini Niwa.
L'ONU indique qu'environ 120 millions de personnes ont été déplacées de force en 2023, ce qui représente la 12e année consécutive d'augmentation du nombre de personnes déplacées. Ce mois-ci, Jørn Egeland, directeur du Conseil norvégien pour les réfugiés, a déclaré que la négligence totale des personnes déplacées est devenue la nouvelle normalité. Selon le NRC, le Burkina Faso compte plus de 2 millions de personnes déplacées, ce qui en fait l'une des crises de déplacement les plus négligées au monde. Fatoumata Pessa Sako, mère de 9 enfants, a fui le nord du Burkina Faso il y a 5 ans et affirme que l'aide a diminué depuis.
Dans le passé, nous étions enregistrés par le gouvernement, mais nous ne recevons aucun soutien de sa part. Quelques organisations caritatives nous ont aidés, mais leur soutien a considérablement diminué et il ne vient plus occasionnellement.
Un responsable humanitaire a déclaré à VOA que la hausse du nombre de crises dans le monde sape la volonté politique de les résoudre. Ciaran Donnelly est vice-président senior de l'International Rescue Committee.
S'il est vrai que le financement du travail humanitaire a augmenté au fil des ans, il est également vrai que le nombre de personnes ayant besoin d'une aide humanitaire a augmenté beaucoup plus rapidement que la capacité du secteur à les atteindre.
Des situations comme celle de Pessako sont particulièrement inquiétantes, déclare Ciaran Donnelly.
Ces personnes sont bloquées, elles sont effectivement entreposées, ce qui est un terme horrible pour parler de personnes. C'est un domaine dans lequel nous ne voyons pas d'investissement réel pour trouver des solutions.
Will Carter est le directeur national pour le Soudan du Conseil norvégien pour les réfugiés.
Je n'ai jamais connu un environnement de financement aussi avare, ce qui a conduit à une couverture des services assez horrible pour les personnes qui meurent de faim. Je n'ai jamais vu un tel niveau de négligence diplomatique et, dans une certaine mesure, médiatique face à des crises horribles.
Pessako affirme qu'elle comprend les problèmes de financement et qu'elle prie pour que le conflit prenne fin.
La communauté internationale reste préoccupée par notre situation. Alors que le conflit au Burkina se poursuit, je comprends que ce n'est pas facile pour eux non plus. Je prie pour que le conflit prenne fin afin que je puisse retourner dans mon village.
Comme des millions d'autres réfugiés, tout ce qu'elle veut, c'est rentrer chez elle.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
L'un des principaux obstacles auxquels se heurtent les réfugiés soudanais qui tentent de construire une nouvelle vie en Ouganda est la barrière de la langue. Certaines des 40 000 personnes arrivées ces derniers mois avaient des connaissances limitées en anglais, mais pas suffisamment pour occuper un emploi ou évoluer facilement dans la société ougandaise. Un groupe d'autonomisation des femmes du centre de l'Ouganda tente de changer cette situation. Un reportage de Halima Atoumani et Mukasa Francis, récit Blanche Sanou.
Un cours d'anglais de base suivi par d'anciens fonctionnaires professionnels et leurs enfants. Il s'agit de réfugiés arabophones du Soudan qui ont désespérément besoin d'apprendre l'anglais pour faciliter leur transition vers l'Ouganda. Parmi eux se trouve Razan Abdoulari Mohamed, ingénieur chimiste de profession et mère de 4 enfants. Ayant fui le Soudan en mars, Razan Mohamed, réfugié, a perdu contact avec son mari.
Je veux m'améliorer.
Pouvoir postuler à n'importe quel emploi et m'occuper de mes enfants.
Chacun des 50 élèves de la classe a besoin d'au moins 3 mois pour apprendre la langue. Asmahan Ahmed doit utiliser l'arabe et l'anglais pour une compréhension aisée de ses élèves. Disposant de peu d'infrastructures pédagogiques, cet ingénieur civil donne une leçon sur les sons de base de l'anglais.
La plupart des réfugiés, selon Asmahan Ahmed, enseignante, n'ont appris qu'un peu d'anglais à l'école avant d'arriver en Ouganda.
Il nous était difficile de communiquer et de l'utiliser à des fins sociales. Et nous trouvons cela tellement difficile de nous expliquer ce que nous savons, ce que nous voulons, ce dont nous avons besoin.
Daoula Hussein Hassan a été déplacée du Soudan pour la première fois en 2011 lors d'un conflit civil. Elle a cherché refuge au Soudan du Sud, mais le conflit dans ce pays l'a conduite à se réfugier en Ouganda en 2014. Aujourd'hui directrice exécutive de l'organisation Kandakiat pour l'autonomisation des femmes, elle s'efforce d'améliorer la vie de ces réfugiés soudanais nouvellement arrivés.
Daoula Hassan note que les difficultés avec la langue anglaise ont laissé de nombreux réfugiés frustrés, quelle que soit leur éducation et leur qualification.
Ils ont besoin d'une réelle aide pour s'adapter à cette communauté et ressentir leur dignité. Parce que si moi-même je suis médecin et je n'arrive pas à exprimer à mon confrère ce que je ressens, à quel point je suis malade à cause de la barrière de la langue, la honte surgit. Et pour ces raisons, vous vous sentez humilié.
Début juin, l'Ouganda avait enregistré plus de 39 000 réfugiés soudanais, dont 70% étaient des femmes et des enfants.
Paul Ndime, l'agent supérieur de protection de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés en Ouganda, travaille avec le gouvernement ougandais pour que les médecins et professeurs réfugiés soient agréés et certifiés.
Jusqu'à présent, nous avons pu établir le profil de la plupart des travailleurs au niveau de Kiryandongo à Kampala. Et nous avons ces discussions et nous travaillons avec le ministère de la Santé, le ministère de l'Éducation et des Sports pour qu'ils puissent exercer une activité ici en Ouganda.
Hassan espère qu'avec davantage de soutien et l'agrandissement des établissements d'enseignement, davantage de réfugiés pourront acquérir de meilleures compétences en anglais pour les préparer à ce qui semble désormais un avenir incertain.
Le 19 juin est le jour férié américain connu sous le nom de Juneteenth, qui marque le jour de 1865 où l'esclavage a pris fin dans les anciens États confédérés de la guerre civile américaine. Dans cette campagne présidentielle américaine, les candidats Joe Biden et Donald Trump s'adressent tous deux aux électeurs noirs à l'occasion du 19 juin. Scott Turns, correspondant de la VOA, nous en parle dans le récit de Gabib Dorsil.
Le président Biden a organisé un concert à la Maison-Blanche avant le début du mois de juin.
Notre histoire ne concerne pas seulement le passé, mais aussi notre présent et notre avenir. Il s'agit de savoir si cet avenir est celui de chacun d'entre nous et pas seulement de certains d'entre nous.
Pour Joe Biden, ses adversaires politiques tentent de réécrire l'histoire.
Il y a de vieux fantômes dans de nouveaux vêtements qui essaient de nous ramener en arrière. Eh bien, il y en a qui vous privent de vos libertés, qui font qu'il est plus difficile pour les Noirs de voter ou de voir leur vote pris en compte. Ils ferment les portes des opportunités, ils s'attaquent aux valeurs de la diversité, de l'équité et de l'inclusion.
La campagne de Donald Trump a lancé samedi une coalition Black Americans for Trump, l'ancien président allant à la rencontre des électeurs noirs dans une église de Michigan.
C'est un domaine très important pour nous. Nous avons fait plus pour, et je le dis fièrement, plus pour la population noire que n'importe quel président depuis Abraham Lincoln. C'est une grande déclaration.
Selon Trump, les électeurs noirs perdent leur emploi au profit de ce qu'il appelle des millions d'étrangers en situation irrégulière.
Chaque État est un État frontalier. Vous l'avez entendu. Mais ils viennent dans votre communauté et ils prennent votre travail. Ils affectent les Afro-Américains, puis les Hispano-Américains, plus que tout autre groupe.
Les communautés noires souffrent de l'aggravation de la criminalité sous Biden, dit Trump.
La criminalité est la plus endémique ici et dans les communautés afro-américaines. Et de plus en plus de gens me disent, monsieur, nous voulons être protégés. Nous voulons que la police nous protège. Nous ne voulons pas être volés, agressés, battus ou tués parce que nous voulons traverser la rue pour acheter une miche de pain.
Les données du FBI montrent que les crimes violents sont en baisse aux États-Unis, dans les grandes villes comme dans les petites. Joe Biden affirme que les électeurs noirs l'ont fait élire il y a 4 ans et qu'il a de nouveaux besoins de leur aide.
Parce que les Noirs américains ont voté, Kamala et moi sommes président et vice-président des États-Unis grâce à vous. Ce n'est pas une hyperbole, parce que vous avez voté. Donald Trump est un ancien président vaincu, et avec votre vote en 2024, nous allons faire de Donald Trump un perdant à nouveau.
Il y a 4 ans, seuls 8% des électeurs noirs avaient choisi Trump. Les sondages réalisés par Pew Research au cours de cette campagne montrent que 18% des électeurs noirs soutiennent Trump. Un bond qui pourrait faire la différence dans des scrutins serrés dans des États en pleine mutation comme le Michigan.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Voilà qui conclut cette édition du Monde aujourd'hui sur VOAAfrique, à la présentation d'Anit Talani, à la réalisation Firmé Max Kouyaouida. Merci de votre fidélité. Un grand merci à toute l'équipe de rédaction et de production. Je vous souhaite une excellente journée. Restez à l'écoute de nos programmes sur VOA Afrique. Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos réseaux sociaux Facebook, YouTube, Twitter et Instagram. À très bientôt.